Alors, c'est une émission spéciale Histoire et Mémoire, en direct du site archéologique de Saint-Martin-au-Val. Nous allons faire une visite immersive pour cette dernière, une chance extraordinaire. Le beau temps est avec nous et Bruno Bazin, le responsable des fouilles, aussi. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors Bruno, on va faire une visite du site comme peu de personnes ont eu l'occasion de le faire, sauf lors des journées gallo-romaines ou des journées portes ouvertes. Là, on se trouve un peu en surplomb du site. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement ce qu'est ce site archéologique ? De quand date-t-il ?
Alors, on se trouve ici sur un des plus grands sanctuaires de Gaule, hein, qui date de, donc, au moins sa construction de 70 après Jésus-Christ. Alors là, on surplombe une partie de ce qu'on appelle la galerie périphérique, c'est-à-dire c'est un portique, on peut comparer ça à ce qu'il y a dans les cloîtres. D'un côté, on a un mur fermé, plein, avec quelques ouvertures. De l'autre côté, un mur qui supporte des colonnes. Et entre les deux, un sol de circulation dans lequel les pèlerins, puisque c'est avant tout un lieu de pèlerinage, venaient faire des dévotions et circuler à l'intérieur de ce portique. Ça, c'est qu'une toute petite partie du sanctuaire, puisqu'on a à peu près 3000 m² d'ouvert et il fait en totalité 6 hectares.
Donc là, en fait, on est comme les pèlerins, sous la galerie ou en amont de la galerie, et je vois des petits vestiges là sur les côtés. Qu'est-ce que ça représente, Bruno ? On a dirait des pièces annexes.
Oui, ce sont ce qu'on appelle des petites chapelles. Alors, il y en a de forme rectangulaire, d'autres semi-circulaires. Elles permettent de faire... Alors, on ne sait pas exactement à quoi elles pouvaient servir. En tout cas, elles soient pour certaines d'entrepôts, celles des angles de la galerie d'entrée. En fait, on a retrouvé des escaliers qui permettent d'accéder directement à la galerie de l'extérieur. Et pour les autres, souvent des pièces où on entrepose des statues dans lesquelles on fait des dévotions à des dieux donc, ou des déesses. Et la dernière hypothèse, ce sont des corporations qui ont leur petite salle dans laquelle ils déposent leur statue dédiée à la corporation dans laquelle les gens viennent faire des dévotions.
Donc on est dans un lieu de culte. Là, on ne voit affleurer que les fondations, si je me trompe, Bruno. Quelles pouvaient être les dimensions en hauteur ou en largeur de tout ce que l'on entreaperçoit ici ?
Alors, ce qui est conservé ici, ce sont bien les fondations. On n'a quasi plus de murs en élévation. Bon, ils sont conservés quand même sur une hauteur de à peu près 3 mètres qu'on a pu dégager. Ce qui reste, ce qu'on peut extrapoler en élévation, c'est à peu près une quinzaine de mètres de hauteur, y compris la toiture.
Du coup, là, Bruno, ça a l'air impressionnant. On est sur des bâtiments de quinzaine de mètres de hauteur. On voit que vous avez mis au sol des cailloutis de couleur pour symboliser les murs. Mais qu'est-ce que vous connaissez d'autre de ce sanctuaire, à part la galerie ? Je suppose une aire sacrée. Est-ce que vous avez une configuration à nous décrire et où pouvait se trouver le temple ?
Alors, on connaît peu de choses, mais quelques-unes. Donc, la galerie en sert une cour sacrée de 4,5 hectares. Et le temple, on le suppose, pas avec certitude, mais quasi maintenant, au niveau de la rue Vengeon, en face de l'église Saint-Brice, dont on a parlé lors d'une émission précédente. D'après des surveillances de réseau qu'on a pu faire, plusieurs, il fera à peu près 40 mètres de large pour 80 mètres de long. Donc le temple est l'endroit où les pèlerins n'ont pas le droit d'accéder, a priori, sauf certains, et qui contient la statue du dieu ou de la déesse principale à honorer.
Et est-ce que là, justement, vous avez des objets ou des indices sur ce dieu ou cette déesse qui aurait été honorée sur place ?
Quelques-uns, sans certitude. On a trouvé, il y a 3 ans maintenant, un pied de statue qui reposait sur un socle sur lequel nous avons une inscription dédiée à Apollon. Alors ça ne veut pas dire que c'est le dieu principal. C'est vrai que c'est un des dieux parmi, on va dire, 5-6 dieux qui sont les plus honorés en Gaule dans les sanctuaires. On avait trouvé aussi il y a quelques temps, en 2007, si mes souvenirs sont bons, un petit objet qu'on appelle un caducé en argent qui correspond à un des attributs de Mercure. Donc on peut avoir aussi Mercure qui est honoré à l'intérieur de ce temple. Sans certitude pour la divinité principale.
Alors là, on a vu un petit panorama rapide de l'architecture. Je voudrais juste savoir en quels matériaux pouvait être construit cet édifice et d'où viendraient ces matériaux, parce que ça a l'air énorme.
Alors on a plusieurs types de matériaux, les fondations en silex, donc c'est extrait du sous-sol chartrain, il y en a beaucoup. On a aussi ce qu'on appelle des petites pierres carrées, qu'on appelle des moellons, qui sont pour les parements en élévation, qui sont en pierre de Berchère, hein, tout simplement, probablement de... Alors, il n'y a pas eu d'analyse précise, mais vu la configuration des matériaux, on pense que ça vient de la carrière de Berchère. Et puis pour ce qui est des éléments sculptés, là on a plus des roches, des calcaires qui viennent de la région parisienne.
Et qui est à l'origine de la construction de ce sanctuaire? Parce que j'imagine qu'il faut des moyens énormes pour construire ce type d'édifice majestueux.
Alors c'est un grand sanctuaire, hein, c'est ce qu'on appelle un sanctuaire civique, c'est-à-dire dédié au peuple en fait. Ce sont principalement ce qu'on appelle les évergètes, magistrats, avocats, enfin les personnalités importantes de la ville d'Autricum à l'époque, Chartres antique, qui financent en fait la construction de ces grands bâtiments qui vont servir donc à l'ensemble de la population du territoire de la cité.
On va descendre un petit peu dans le site et essayer de le contourner pour vraiment avoir l'impression de visite. Et on va se rendre au pied donc d'une petite chapelle annexe. Et je crois là, Bruno, me rappeler, vous aviez dit que ce temple s'est construit donc au 1er siècle. Et quelle est un peu la durée de son utilisation, de sa vie, entre guillemets?
Alors, je disais tout à l'heure, première construction, 70 après, et... Il y a une particularité dans la partie qu'on a fouillée, en tout cas, c'est qu'il a probablement jamais été terminé. Et on sait qu'il est réoccupé vers le milieu du 3e siècle par l'installation en fait, de gens qui viennent récupérer les sculptures, les éléments de colonne pour en faire donc de les faire brûler et en faire du mortier. Et puis on a aussi l'installation au milieu du 3e siècle d'une grande fosse dans laquelle on a retrouvé plus de 120 cadavres dont on suppose la mort par une épidémie. Ça a l'air de se confirmer par les analyses qui sont faites actuellement.
Donc là, on est en façade du sanctuaire. Bruno, je ne sais pas où est l'entrée principale, mais en tout cas, là, il faut imaginer qu'on est dans une rue ou une voie antique et que le sanctuaire est face à nous, avec ce pavillon d'angle sur notre droite et les petites chapelles en face. Et c'est donc à cet endroit-là que cette grande fosse a été creusée.
Oui, en fait, l'origine de la fosse, c'est pas pour inhumer les morts, on en a profité parce qu'elle était profonde, c'est pour récupérer des matériaux qui sont dans le sous-sol, argile et principalement des remblais qui étaient liés à la construction du sanctuaire. Et on a profité de cette fosse à l'occasion, donc probablement de cette épidémie, pour inhumer plusieurs corps alors qu'ils sont enchevêtrés les uns par-dessus les autres, puisqu'il s'agit d'une épidémie. On a voulu enterrer rapidement l'ensemble de ces corps pour éviter une prolifération de la maladie.
Donc, milieu du 3e siècle, on récupère tous ces matériaux, et je crois du coup qu'à l'extrémité du site, vous avez même des vestiges d'un atelier, ou je ne sais pas comment on dit, mais de recyclage, de création de chaux, c'est ça?
Ça sera une des découvertes de cette année, puisqu'il n'a jamais été... mis en évidence ni possibilité de le visiter. Donc cette année, on a fait des aménagements pour pouvoir le visiter. Donc on a bien un four à chaux qui date du début du 4e siècle et qui a récupéré les différents éléments de décoration, marbre et de colonnes, pour le brûler, en faire du calcaire et refaire du mortier en le mélangeant avec du sable et de l'eau.
Donc là, on se trouve au pied du four à chaux, hein, pour recycler les matériaux du sanctuaire. Bruno, qu'est-ce qui se passe donc au-delà du 4e siècle?
Alors, après le 4e siècle, le site est en partie abandonné, mais comme le bâtiment est extrêmement important, il sert de carrière, c'est-à-dire qu'on vient récupérer les matériaux et on s'en sert pour d'autres constructions. Les traces qu'on a, c'est principalement, on va dire, 14-16e siècle, puisqu'il faut savoir que tout l'ensemble du site était enclos dans les jardins et vergers de l'abbaye de Saint-Martin-en-Val, dont on a parlé l'autre jour. Donc ça reste relativement préservé. Donc on sait qu'à cette période, certains vestiges sont encore visibles. On parle même de découverte d'une stèle avec des personnages sculptés d'époque romaine. Alors ça, on n'a pas trace, on ne sait pas si c'était vraiment romain, mais c'est possible. On s'en sert aussi comme carrière, puisqu'on a retrouvé un petit bâtiment le long des murs, donc ça veut bien dire que les murs sont encore visibles. On réutilise une partie des murs, on les démonte dans certains endroits, on refait d'autres murs à côté pour faire une petite pièce qu'on a retrouvée au milieu du portique. Et puis tout ça jusqu'à peu près au XVIIIe siècle. Et à partir du 19e, en 1836, on construit sur ce terrain-là les abattoirs qui vont durer jusqu'à peu près les années 2000.
Donc un site qui a été donc un verger, puis des abattoirs, et aujourd'hui donc il est redécouvert. Quand ont débuté les fouilles sur le site ?
À partir de 2006, une volonté donc du maire de réouvrir les vestiges. Alors il y a eu d'abord plusieurs diagnostics de 91 à 2005 pour savoir s'il y avait vraiment un potentiel intéressant, ce qui était avéré plus positif. Donc les vestiges redécouverts en 2006 et on fouille depuis cette période.
Donc des fouilles annuelles ou du moins qui s'étalent, je crois, pendant l'été. Et là, donc, vous recommencez une nouvelle campagne, mais en parallèle de ça, il y a tout le travail de préservation des vestiges. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, c'est important parce que c'est bien de fouiller et dégager, mais si c'est pour que les vestiges s'abîment, l'intérêt est moindre. Et puis c'est bien de restituer aussi au public. Donc afin de restituer au public dans les meilleures conditions et de préparer la future restauration, plusieurs campagnes, on est à la troisième phase là, de protection des vestiges, ont permis donc de mettre une armature de type charpente avec une toiture qui protège en fait l'ensemble des murs. On a essayé de faire en sorte que ça reste relativement pédagogique, c'est-à-dire que les vestiges sont visibles en dessous, en circulant tout autour, et aussi pédagogique dans le sens où on a essayé de restituer les pans des toitures qui pouvaient exister à l'époque, alors pas à 15 mètres de haut, à quelques mètres de haut, pour que la protection soit efficace, mais ça restitue, notamment pour le pavillon d'angle, un schéma qui pourrait correspondre à ce qu'il y avait comme toiture au-dessus.
Donc effectivement, là, les protections ne sont pas élevées à 15 mètres de hauteur, mais ça donne quand même bien une bonne idée de la structure générale du bâtiment. C'est vraiment, effectivement, comme le dit Bruno, très pédagogique. Et pour aller plus loin dans le pédagogique, il y a du coup cet événement important pour la direction de l'archéologie qui est la fête gallo-romaine qui se déroule donc les 2 et 3 juillet, toujours le premier week-end de juillet. Et on vous invite à venir à cette occasion découvrir le site, même s'il y a eu quelques visites de site les mercredis avant cet événement. Et là, on va se diriger donc dans une autre partie du site archéologique auprès d'un bâtiment annexe où l'équipe là est vraiment à pied d'œuvre et en train de dégager et de fouiller les vestiges.
Thank you. has passed without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her, how she sparkles. It's the last unicorn. I'm alive. I'm alive.
De retour dans votre émission Histoire et Mémoire, nous avons donc le privilège aujourd'hui d'être au pied des vestiges du site antique de Saint-Martin-en-Val. Nous sommes avec Bruno Bazin, le responsable des fouilles. Après un premier aperçu du sanctuaire, nous sommes là au pied d'autres vestiges qui apparaissent comme un petit bâtiment annexe. Mais je laisse la parole à Bruno pour nous expliquer ce que sont ces vestiges-là et quel va être son plan de travail pour cette nouvelle campagne de fouilles.
Alors là, on se trouve en face de l'entrée principale du Grand Sanctuaire. Donc on sait depuis quelques années qu'il existe d'autres bâtiments annexes en connexion avec ce sanctuaire. Et on en a dégagé un dont on savait que les vestiges étaient plutôt bien conservés d'après un diac de 95. Alors il s'agit d'un petit bâtiment carré, enfin un petit bâtiment qui fait déjà 25 mètres de côté, hein. Dans lequel on a trouvé une pièce centrale avec une grande ouverture et qui est rattachée à un même principe que le sanctuaire, une galerie de circulation qui va donc au-delà du bâtiment vers le nord et même chose vers le sud, donc c'est-à-dire une grande galerie qui passe devant la façade monumentale du sanctuaire.
Et là, donc on voit que les vestiges sont recouverts de bâches pour les protéger. Quel va être un petit peu votre travail ? Je vois aussi qu'il y a une pelle mécanique. Comment va se dérouler cette phase de terrain ?
Donc là, on vient de reprendre il y a une semaine et demie. Ce qu'on fait, en fait, on avait déjà dégagé une bonne partie. Hein. Il y a eu deux campagnes déjà sur ce bâtiment. On connaît pas mal de choses. Donc là, on va attaquer les niveaux de sol romains, ce qu'on appelle en béton. C'est-à-dire c'est du calcaire mélangé à des gravillons qui fait le sol très compact. Et on l'enlève à la pelle mécanique, ce qui est plus rapide et ce qui nous évite aussi de nous fatiguer sur des niveaux qu'on maintenant on connaît bien, qui sont relevés. On va aller chercher ce qui existe en dessous, c'est-à-dire les niveaux de construction, ça peut être des déchets de taille, ça peut être des remblais qu'on amène entre les murs du bâtiment pour construire ce bâtiment afin de pouvoir dater la période de construction de ce bâtiment. Parce que là, ce qu'on sait, c'est qu'on a son dernier état avec le sol, on a retrouvé des couches de démolition dessus qui datent du 3e siècle, mais on ne sait pas à quelle période ce bâtiment s'installe. On sait également que la galerie de circulation est préexistante à ce bâtiment, c'est-à-dire qu'on a entaillé à un endroit cette galerie pour installer ce nouveau bâtiment.
Est-ce que ce bâtiment est antérieur ou, je dirais, contemporain de la construction du grand sanctuaire ?
Et c'est tout l'enjeu de cette campagne de fouilles, c'est de savoir si ce bâtiment est contemporain ou pas. Ou est-ce que, comme le sanctuaire dans la partie qu'on a fouillée n'a pas été terminé, est-ce qu'on installe du coup un petit bâtiment relais, on va dire, pour faire les cérémonies à l'intérieur, en attendant que le grand sanctuaire soit terminé ? Ce qui y arrivera donc jamais, semble-t-il, pour des problèmes dont on ne connaît pas vraiment actuellement la cause. Donc ce bâtiment, quand on aura les datations, on pourra déjà préciser s'il est contemporain de la construction de l'autre bâtiment, s'il est plutôt postérieur, c'est-à-dire 2e siècle par exemple, ce qui serait intéressant, ça voudra dire qu'il prend le relais du sanctuaire qui n'est pas terminé.
D'accord. Et là, je crois que c'est ici que vous avez fait les découvertes d'éléments de statuaire. Est-ce qu'il y a d'autres vestiges significatifs qui ont été trouvés lors des dernières campagnes ?
On a beaucoup de choses en fait ici qu'on n'avait pas sur le sanctuaire. Donc là, on sait que ce bâtiment est terminé parce qu'on a des éléments de toiture, on a des éléments de plaquage en marbre aussi qui viennent de Turquie, d'Afrique du Nord, de France, etc.
Et qui servait à quoi ces plaquages de marbre ? Pour les sols, pour les murs, pour...
Principalement pour les murs. En fait, c'est des éléments décoratifs. On va réaliser aussi des colonnes en marbre associé aussi, on le sait, avec des peintures murales, probablement. À l'intérieur, c'est là qu'on en a retrouvé le plus, de la pièce principale qui est au centre du bâtiment, mais certainement aussi, semble-t-il, sur les murs, sur le parement intérieur des murs extérieurs. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce bâtiment, sur l'est, donc du côté de la plaine sportive, où il y a les terrains de rugby, en fait, l'ensemble de la démolition a été rejeté vers l'extérieur, et les niveaux de circulation à l'époque étaient 2,50 m plus bas que ceux qu'on a actuellement, c'est-à-dire au niveau du gazon, de la plaine sportive. On circulait 2,50 m plus bas et on a profité de ce pendage pour évacuer l'ensemble des éléments de démolition. C'est là qu'on retrouve beaucoup d'éléments d'architecture, entablements, colonnes, de sculptures, enfin beaucoup pour l'instant, pas beaucoup, mais on espère en dégager cette année un peu plus, d'inscriptions et d'éléments décoratifs.
Du coup, là, ça vous donne des indices incroyables sur l'architecture et ces colonnes ou ces colonnades, est-ce qu'elles avaient un style particulier? Est-ce que là, vous avez déjà pu étudier ces restes-là et avoir quelques indices?
Pour le sanctuaire principalement, puisque actuellement, on n'a pas d'éléments sur le bâtiment qu'on vient de dégager, d'éléments de colonnes, en tout cas dans les éléments de démolition extérieure. Pour le sanctuaire, on a défini un style, ce qu'on appelle corinthien. Ce sont des décors de chapiteaux avec des feuilles d'acanthe et pour les colonnes on a des décors de feuilles d'eau, ce qu'on appelle, ce sont des petits éléments triangulaires qui représentent une feuille qui sont à la tête en bas en fait, qui décorent l'ensemble du fût de la colonne.
Et là, combien de temps vous allez rester sur ce terrain? Combien de personnes sont à pied d'œuvre là aujourd'hui?
Alors en totalité on est 4 à 5 personnes, et puis il y a également des stagiaires qui vont arriver, qui viennent donc faire valider des stages, des étudiants en histoire, souvent en histoire de l'art, archéologie, valider des stages à l'université, et aussi des bénévoles qui ont envie de découvrir le site et de venir fouiller. Donc au mois de juin, étant donné qu'il y a les partiels, on a beaucoup moins d'étudiants, au mois de juillet on sera à peu près 10 à 12 personnes sur le terrain en totalité.
Donc vous allez fouiller juin et juillet. Quel va être après le programme? Est-ce que la fouille perdure un peu encore à l'automne ou vous allez très vite rentrer dans une phase d'étude?
Comme tous les ans, en fait, on rentre dans la phase d'étude à partir du mois de septembre pour pouvoir rendre un rapport qui va être jugé par une commission archéologique qui dépend du ministère de la Culture et qui va donner son aval pour éventuellement une prochaine campagne l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a déposé un dossier pour ce qu'on appelle une fouille programmée triennale qui a été donc validée avec un projet de recherche pendant 3 ans. Et ce projet de recherche va de 2016 à 2018. Donc a priori, en 2017 et 2018, on devra avoir encore 2 nouvelles campagnes qui permettront, j'espère, de faire de belles découvertes.
Donc, chantier à suivre, et je crois aussi qu'il y a en préparation un petit archéo numéro 24, ce qui sera donc consacré au site. En attendant, vous pouvez découvrir quelques secrets du sanctuaire sur le site internet archéologie.chartres.fr ou venir nous voir lors de la fête gallo-romaine les samedis 2 et dimanche 3 juillet. C'est gratuit, il y a plein d'animations pour découvrir ce que pouvaient être les cérémonies ou les pratiques religieuse à cette époque au sanctuaire. Donc bienvenue à tous par avance, au plaisir de vous y accueillir et à très bientôt sur Radio Grand Ciel. N'hésitez pas à télécharger ou réécouter nos émissions.
always be danger. If we had it tonight, why do we always seek a solution? It's in the eyes, I can tell you'll always be danger. How does the earth
bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Happiness so hard to come by, so good while it lasts. Some people say that it ain't worth pursuing, cause it's always moving too fast. So I wonder, what could it be? So hard to deal with when there is sadness in your eyes. As you come through the door, it may leap out of the darkness. It's always pleasant surprise. So I wonder, what could it be? And I wonder. Still we try. May we all mop up in our cup, running